Alors, Le Petit Chose, histoire d'un enfant. C'est un livre que j'ai lu enfant. Je me demande s'il ne nous était pas distribué lors de la distribution des prix. Moi, j'étais élève d'un lycée. J'avais reçu La Petite Fadette et La Mare au Diable comme prix à la fin de l'année, parce que j'avais des prix. J'étais un bon élève. Oui, j'aimais bien partir en vacances avec mes prix. Et le Petit Chose se distribuait comme prix. Et le livre passe pour être un livre pour les enfants. Mais ce n'était pas le cas initialement. Et le livre que, enfant, je me souviens avoir lu, n'était pas d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet avait commencé par faire paraître en feuilleton, puis chez un éditeur, l'original du Petit Chose, histoire d'un enfant, en deux parties, dans la presse. Le livre avait paru en feuilleton en 1867 et fut publié en 1868. Et le livre pour enfants date de 10 ans plus tard, en 1878. C'est l'éditeur Pierre-Jules Hetzel, pareil, un grand patron de la presse de jeunesse et célébrissime éditeur de Jules Verne, Hetzel, l'Alsacien républicain Hetzel, qui avait, lors du coup d'État de décembre, avait quitté la France, était un républicain très hostile à Louis-Napoléon Bonaparte. Il s'était réfugié à Bruxelles, et c'est lui qui édite à Bruxelles, en exil, Les Châtiments de Victor Hugo. Hetzel a publié des merveilles, c'était un éditeur actif, industrieux, écrivain par ailleurs, et passionné de politique. Plus tard, après la chute de l'Empire, il s'occupera de pédagogie républicaine. Hetzel avait été le chef de cabinet de Lamartine, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de 1848, le gouvernement provisoire, juste avant la Seconde République. Alors c'est Hetzel qui, en 1878, a publié une version enfantine, réécrivant lui-même le texte. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Alphonse Daudet était extraordinairement paresseux. Il aimait beaucoup se faire aider, il fit travailler des nègres, il n'aimait pas se corriger, se décharger de quantité de besogne sur n'importe qui, et à partir du moment où il s'est marié, sur son épouse, qui était femme de lettres. Si vous êtes écrivain et paresseux, essayez de trouver un mari qui soit homme de lettres et qui puisse faire à votre place votre travail. Ah, vous êtes peut-être des femmes de lettres, des écrivaines, comme on dit maintenant. Alors la version pour enfants, elle est amputée d'une bonne partie de la seconde moitié du livre. Le petit Daniel et Sept montent à Paris, ayant échoué dans sa chétive carrière de surveillant d'internat, enfin surveillant d'externat à Alès. Il est appelé par son frère, son généreux frère Jacques, qui lui a trouvé un emploi à Paris, et il monte à Paris. Et à Paris, il y connaît toute une série d'aventures qui sont autant de mésaventures. Il rate tout, même ses amours avec une jolie fille aux magnifiques yeux noirs. Il se laisse aller à des amours avec une femme vénale, une aventurière, une théâtreuse, une femme fatale, mal embouchée, cupide et dure, qu'il a trouvée dans son logement. Et la fin du livre est pathétique, puisque frère Jacques, que désormais on appelle mère Jacques, meurt d'une crise de phtisie galopante, résigné à sa vie de raté. Le malheureux Daniel tombe malade, échappe de près à la mort. Sa mère, Madame Essette, devient aveugle, et il fait une espèce de mariage de raison en épousant les yeux noirs, et il exercera toute sa vie le métier peu grisant, assez plat, de marchand de porcelaine. Il se rêvait écrivain, artiste, homme de théâtre, se rabat sur un métier chétif, boutiquier. Donc c'est cette fin, qui est une fin pessimiste, une fin noire, la destinée lamentable d'un raté, cette fin, il ne fallait pas la soumettre à des petits lecteurs. Il fallait quelque chose de plus grisant. Donc, la femme fatale, la théâtreuse avec laquelle il a essayé de faire du théâtre sans succès du reste, elle est supprimée. Le livre était allégé, réécrit, réorienté dans un sens un peu plus positif. Alors, le livre original, le livre de 1868, quel était-il et qui était Alphonse Daudet au moment de la parution? Comme ce livre est en partie autobiographique, il y a lieu de s'intéresser à la vie même d'Alphonse Daudet. Il naquit à Nîmes en 1840. Alors, dans le roman de Petit Chose, Daniel, le protagoniste du Petit Chose, est né dans une ville du Languedoc, où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et deux ou trois monuments romains. Les carmélites, on en trouvait partout. Beaucoup de soleil, pas mal de poussière, c'est vague. Le Languedoc, c'est très général. Deux ou trois monuments romains, c'est Nîmes. Il était le troisième et dernier enfant d'une famille de trois. Alors, vous aviez un fils aîné, Henri, qui était séminariste et qui va mourir de maladie avant même que d'avoir été ordonné prêtre. Et ceci est conservé dans le Petit Chose. Et vous avez Ernest, le deuxième garçon, qui va lui vivre, exercer, pour remédier aux misères de la famille, toutes sortes de métiers. C'est celui qu'Alphonse Daudet a surnommé Jacques dans son livre. Le père avait une entreprise familiale de tissus. À Nîmes, et comme le dit le roman, en 1849, juste après la révolution de 1848, l'entreprise qui végétait subit de plein fouet le contre-coup des crises économiques qui avaient ravagé la France juste avant la révolution de 1848. Vous avez une crise économique redoutable en 1947. C'est la dernière crise économique en France qui provoque la disette. On ne trouve plus à se nourrir. Et les gens crèvent de faim. On ne trouve plus de farine. 47. Après des crises, près d'un tour moderne. Donc en 49, l'entreprise familiale ferme. C'est la faillite. Et la famille, non pas le séminariste, mais le père, la mère et les deux frères, s'installent à Lyon. Et là, tout ce qui est consigné par Alphonse Daudet correspond sensiblement à la réalité, la misère, on n'a pas de quoi se vêtir, on a gardé la blouse comme habit, un habit rural, un appartement exigu, dévoré de vermine, on est dévoré de vermine, avec des blattes qui courent partout. La ruine de la famille, malgré des entreprises désordonnées du reste du père, s'aggrave, et il lui faut, au petit Daniel, dans le roman, Alphonse, en réalité, interrompt ses études, études qu'il avait conduites avec la plus grande négligence. C'était un assez mauvais élève qui n'avait même pas de bonnes notes en français. Pour un futur écrivain, c'est assez fâcheux. Il était paresseux, rêveur, nonchalant. Il lui faut gagner sa vie pour subvenir à la vie familiale. Donc, il devient maître d'études dans un collège, un lycée, à Alès, dans le Gard. Il y sera du mois de mai, donc il fait la fin de l'année, mai, juin, juillet, en vacances, le collège gardé des pensionnaires, il les surveille pendant l'été, et il se fera chasser en octobre 1857, car il n'avait aucune autorité. Quand on est pion, surveillant, c'est fâcheux. Il vient à Paris, s'installe chez son frère Ernest, alors pas très loin de Saint-Germain-des-Prés, mais pas juste en face. Il a logé rue de Tournon. Et là, vivant de ce que gagnait laborieusement son frère, il a mené une espèce de vie assez terne, de bohème. Il s'est lié avec une petite actrice de mœurs très légères qui complétait ce que le théâtre lui rapportait mal en posant nu pour des artistes, peintres. Hein. Donc un modèle et une petite actrice. Il aimait la littérature et il s'imaginait, on est en 1858, on est sous l'Empire, il s'imaginait que la poésie permettrait à un homme de gagner sa vie. Donc il rédigeait des vers, et à ses frais, aux frais de son frère, il a fait imprimer un recueil, Les Amoureuses, de vers lyriques amoureux, un recueil qui n'eut aucun succès. Et du reste, il y a de plus en plus de lecteurs dans la France du Second Empire, l'alphabétisation a bien fonctionné, et ce lectorat n'aime plus guère les vers, il est friand de romans feuilletons, de romans sentimentaux, de romans d'aventure, de romans tout court. Le genre populaire avec lequel vous pouvez gagner de l'argent, ce n'est pas la poésie. Ce fut le cas. Hein. On pouvait gagner beaucoup d'argent, mais vers 1830, en écrivant des vers. Mais sous le Second Empire, cette bourgeoisie industrielle et commerçante, si active, si consciente d'elle-même, de ses droits, si ambitieuse, qui est au pouvoir avec Napoléon III, n'a que faire de poésie. Vous voyez, pour se penser à la condition assez triste de Baudelaire, poète. On peut écrire des vers et les publier, mais pour gagner de l'argent, il faut travailler dans la presse, faire de la critique, faire des romans feuilletons, et surtout imprimer des nouvelles et des romans. Il le comprend assez vite et Alphonse Daudet va devenir chroniqueur dans le journal Le Figaro, qui était un journal grand tirage, grand public, rien à voir avec Le Figaro actuel. Et grâce au directeur du Figaro, qui était bienveillant envers lui, il va pouvoir cette fois trouver une situation. Alors, il n'en parle pas du tout dans Les Petites Choses, qui s'éloignent là de l'autobiographie. Il va pouvoir trouver non pas une sinécure, mais un métier très bien rémunéré, il devient secrétaire du duc de Morny. Alors le duc de Morny était un très grand personnage du Second Empire, c'était le demi-frère de Napoléon III, et c'était le président du corps législatif. Et il était de toutes les fêtes du Second Empire, il encourageait l'équitation, s'est fait ériger partout des demeures absolument fastueuses. Secrétaire, il va donner satisfaction à son patron et continuer de cultiver la littérature. Il va écrire du théâtre, réussir à se faire jouer au théâtre de l'Odéon, mais les choses se gâtent dans la vie d'Alphonse Daudet, c'est que à fréquenter des femmes pire que légères, et des femmes de mauvaise vie, de mauvaise mœurs et de mauvaise santé, Alphonse Daudet avait attrapé une forme grave de syphilis. Et la maladie se fait sentir dès les années 1861-62. Cela lui vaut des migraines épouvantables. Il mourra, n'est-ce pas, des conséquences de la syphilis. Il va passer donc l'été, pendant que son patron est sur la côte normande, à Deauville, il va passer l'été près d'Arles. À Arles, il travaillote, et c'est là où il va rédiger les nouvelles que vous savez, qui plus tard s'appelleront les Lettres de Montmoulin. Les Lettres de Montmoulin, il est près du moulin de Fontvieille, et il écrit ses impressions de Provence retrouvées. Le duc de Morny meurt en 1865, probablement aussi des suites d'une syphilis mal soignée. Daudet s'installe à Clamart dans un phalanstère d'artistes et d'écrivains. On mesure qu'il n'avait jamais tout à fait cessé de regretter la vie de bohème. Fumer, boire, pour se consoler de ses migraines et de ses crises de dépression. J'ai oublié de vous dire qu'Alphonse Daudet comptait beaucoup, et même beaucoup trop, sur l'alcool, sur l'absinthe. La littérature, il la cultive, il profite, n'est-ce pas, de ses jours près de Nîmes, lors de vacances, il profite de ses séjours pour laisser en lui se réveiller ses souvenirs d'enfance. Et c'est par ce biais, voyez, de retour à la ville natale, qu'en 1866, il se met à écrire de petites choses. Son plan bien arrêté, il était inspiré, un souvenir en amenait un autre. Il avait rédigé beaucoup d'articles de presse. Il avait déjà rédigé, sans les publier encore, les lettres de Montmoulin. Ne vous étonnez pas que souvent, chaque chapitre du Petit Chose est l'allure d'une espèce de nouvelle, d'une forme, un petit développement autonome. Et il n'y a pas la chronologie de l'histoire n'est pas très serrée. Il y a du décousu dans la seconde partie, quand le personnage est à Paris, on ne donne aux enfants que la première partie, lorsque le personnage est jeune. Mais le calendrier n'est pas marqué. Donc on devine la technique de quelqu'un qui s'était familiarisé avec l'écriture de nouvelles, beaucoup plus que l'écriture de romans, même si plus tard, Daudet publiera beaucoup de romans. Alors il fait paraître le Petit Chose dans la presse en 1867. Le livre a dû intéresser. Et enfin, le livre paraît en 68. Très peu de critiques littéraires sont souciées. Dans l'édition que j'ai du Petit Chose, dans les classiques de poche, l'édition qui est bien faite par M. Forestier, M. Louis, j'ai dit monsieur, peut-être n'est-il plus de ce monde, Louis Forestier, qui a édité Maupassant dans la Pléiade, et qui connaît fort bien, n'est-ce pas, toute la littérature de romanesque de ce deuxième 19e siècle. L'édition Louis Forestier cite sur la fin, il y a tout un dossier, cite sur la fin quelques comptes rendus de quelques rares journalistes. Bref, ce n'est pas avec le Petit Chose qu'Alphonse Daudet conquit la notoriété. Il épouse une femme de lettres, je vous le disais, Julia Allard, qui, elle, avait engagé une belle carrière, journaliste, sera décorée de la Légion d'honneur, et surtout cette femme, qui fut une excellente épouse, soigna son mari, l'aida à triompher de ses crises de dépression, l'aida à lutter contre la maladie qu'il dévorait, et organisa son travail. Elle le mit régulièrement au travail. Au fond, elle agit un peu comme George Sand avait agi beaucoup plus tôt avec Alfred de Musset, qui était dissipé, nonchalant, paresseux, alcoolique, opiumane. Tout cela est assez fâcheux pour une carrière régulière d'âme de lettres. George Sand, qui était avec elle-même d'une discipline implacable, mit Musset au travail. Et Musset s'en porta bien. Sans elle, n'est-ce pas, nous n'aurions pas Lorenzaccio, par exemple. Dommage. Quand vous lisez Lorenzaccio, quand vous le regardez, si vous allez au théâtre, quand on le joue, ayez un petit pincement au cœur en faveur de George Sand. C'est grâce à elle que nous pouvons voir ou lire ce chef-d'œuvre. L'union d'Alphonse Daudet avec Julia Allard fut très heureuse, et peu de temps, n'est-ce pas, après l'apparition du Petit Chose, naît leur premier enfant, à savoir Léon Daudet, futur journaliste, futur polémiste, futur romancier, futur membre du jury Goncourt. Léon Daudet qui aura le génie, collaborateur de Charles Maurras, hein, à la tête du journal L'Action française, Léon Daudet aura le génie de repérer que Proust est un immense écrivain, et bien qu'il fût lui-même réactionnaire, royaliste, passéiste, il remarqua le talent extraordinaire de Céline, par exemple. Léon Daudet fut un critique étonnant, et puis un grand polémiste. Mais comme son nom est lié à celui de Charles Maurras, évidemment aujourd'hui, il est passablement décrié. Le succès pour Alphonse Daudet ne viendra que quelques années plus tard, en 69, avec justement les lettres de Montmoulin. Alors là, n'est-ce pas, le grand public réserve une ovation à ce livre, et par la suite, Stimulé par son épouse, il donnera quantité de romans qui ne sont peut-être pas captivants. Aujourd'hui, je terminerai par les réserves sur Alphonse Daudet, romancier, formulé par Michel Raymond dans son maître livre sur le roman depuis la Révolution. Alors, le petit chose. Vous avez une première partie de 14 chapitres, c'est la seule qui nous intéresse, il y a des enfants, et puis la deuxième partie, le séjour parisien du personnage, qui grandit, 16 chapitres, les deux parties sont à peu près équilibrées. Alors, le texte de Daudet est ambigu, parce que ce que nous lisons dans la première partie du petit chose, chaque chapitre sont numérotés, chaque chapitre est muni d'un titre, et on a l'impression d'une suite de nouvelles, mais de nouvelles autobiographiques, puisque tout est à la première personne. Alors, l'autobiographie de quelqu'un qui est au début de sa carrière littéraire et qui n'a rien publié encore, qui est attiré l'attention du grand public, c'est un peu étrange. Vous voyez que beaucoup de romanciers se mettent à écrire leur autobiographie après qu'ils ont conquis notoriété, pas avant. Dans les Antimémoires de Malraux, c'est à la fin de sa carrière. Beaucoup de textes autobiographiques de François Mauriac, il avait attendu, n'est-ce pas, d'être académicien français et couronné du Nobel de littérature pour livrer ses souvenirs. Et Alphonse Daudet lui-même fera la même chose, hein, au terme d'une brillante carrière. Brillante, il n'a jamais voulu entrer à l'Académie française. Il n'était pas sûr d'ailleurs que l'Académie française de l'époque eût voulu de lui, puisque c'était un écrivain trop populaire. Ses romans ne témoignaient pas d'un raffinement particulier. Mais à la fin de sa vie, Alphonse Daudet publiera le roman de mes romans, c'est-à-dire les souvenirs que l'écrivain garde de toute sa carrière. L'endroit de ce livre relatif aux petites choses est cité in extenso au terme de mon édition, dans les classiques de poche. J'ai là l'édition, je vous la montre, il n'est pas possible d'avoir trouvé un portrait aussi triste en couverture. Je trouve ce jeune homme absolument lugubre. C'est peut-être le petit chose. Il s'agit d'un portrait, en plus les dates ne conviennent pas, ce portrait date de 1826, le portrait de Samuel Palmer, autoportrait. Bon, passons sur la couverture. Alors, les érudits ont creusé la vie d'Alphonse Daudet, et grâce aux notes de Louis Forestier, on sait à chaque moment si ce détail est véridique ou si cet autre est inventé. Alors, la ville où le petit chose est pion n'est pas nommée directement Alès, mais on la reconnaît à cause de la poussière, à cause de l'allure encaissée de la ville et de la saleté que faisaient régner les entreprises industrielles. Il y a des mines à deux parts, des mines de charbon. Donc, pas de doute, c'est Alès. Nîmes, on ne reconnaît pas trop Nîmes. Il n'est pas question de beaucoup des monuments romains de Nîmes. Mais par moments, il y a des inventions pures et simples de la part d'Alphonse Daudet. Le fait, n'est-ce pas, que est curieux, que, avant toute carrière, avant toute notoriété, Daudet ait publié une espèce d'autobiographie déguisée. Il s'est rajeuni. Il a retardé d'à peu près 20 ans la date de sa naissance. Et il a eu recours à toute une série de déguisements. Il a changé, bien sûr, le nom de sa famille. Il a changé les noms de ses frères, notamment de son frère Ernest, qu'il a mué en Jacques. Il a gardé silence sur beaucoup d'endroits de son existence. Donc l'œuvre est écrite à la première personne, à une apparence autobiographique, en réalité, elle est farcie, si j'ose dire, de littérature. Daudet avait des lectures, et il les a, évidemment, utilisées. Le tout début, n'est-ce pas, où il présente sa naissance comme le début d'une catastrophe, Je suis né le 13 mai 1800, on ne sait pas, et dans une ville du Languedoc. Mon père était au bord de la faillite. C'est là que je suis venu au monde, que j'ai passé les premières, les seules bonnes années de ma vie. Aussi, ma mémoire reconnaissante a-t-elle gardé du jardin, de la fabrique et des platanes un impérissable souvenir. Et lorsqu'à la ruine de mes parents, il m'a fallu me séparer de ces choses, je les ai positivement regrettées comme des êtres. Je dois dire pour commencer que ma naissance ne porta pas bonheur à ma famille. Vous vous souvenez, j'espère, du début des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, où il s'écrit, n'est-ce pas, qu'il eût mieux fait de ne pas naître. Sa mère lui donnait le jour. Non, passage repris évidemment par Chateaubriand au début des Mémoires d'Outre-Tombe, où il a inventé, les érudits ont débusqué le mensonge, il a inventé qu'au jour de sa naissance, une épouvantable tempête ravageait Saint-Malo. Or, ce jour-là, le jour de sa naissance, il faisait très beau à Saint-Malo. Il voulait naître, n'est-ce pas, dans le vent, dans l'orage, dans la tempête. Tricherie de... Également, à la fin des Mémoires d'Outre-Tombe, il affirme, n'est-ce pas, que depuis sa maison de la rue Bonaparte, il voit le soleil faire briller la coupole des Invalides. Comme ce passage est daté, précisément, des érudits, des historiens ont travaillé la chose. Déjà, n'est-ce pas, même huché sur la cheminée de la maison de Chateaubriand rue Bonaparte, on ne peut pas voir le dôme des Invalides, d'une part, et d'autre part, ce jour-là, il pleuvait, il y avait du brouillard, le soleil ne faisait pas briller le dôme des Invalides. Et pour la dernière page des Mémoires d'Outre-Tombe, il voulait, n'est-ce pas, se mesurer une fois encore par rapport à son grand ennemi Napoléon. Moi, j'achève ma vie ici rue Bonaparte, lui, il dort sous le dôme des Invalides. Fiction, fabulation, la littérature. Vous avez, dérivant de la littérature et peignant les jeux du petit Daniel, non pas du petit Alphonse, mais du petit Daniel dans la fabrique familiale, le personnage, le petit personnage, se prend pour Robinson Crusoe. Robinson, pauvre Robinson. Il joue avec le fils du concierge à Robinson Crusoe. Lui et Robinson, le fils du concierge, joue vendredi. Alors je ne sais trop si vous avez lu avec précision Le Grand Maulne, mais il est question, n'est-ce pas, d'une gravure de Robinson Crusoe que le petit héros et qu'Augustin Maulne ont contemplé, et gravure qui les a fait rêver. Je pense que beaucoup de petits-enfants de ce temps-là, de la fin du 19e siècle et du 20e, ont rêvé sur Robinson Crusoe, sur l'île de Robinson. Dans Le Grand Maulne, c'est une gravure, on nous l'a décrit dans une vieille édition de Robinson Crusoe. Robinson est rentré de son île, mais chez un vannier, le regardant travailler, il est soudain pris d'une envie presque furieuse d'abandonner l'Angleterre, son épouse et ses enfants, et de repartir dans l'île. Donc c'est le désir de repartir qui a travaillé l'imagination du Grand Maulne. Vous avez donc ces endroits qui brodent sur le roman de Daniel Defoe. Les scènes du collège, alors il faudrait que vous fissiez le travail en vous servant des éditions que l'on trouvait à l'époque où Alphonse Daudet rédigeait son livre. Elles dérivent à peu près toutes ces histoires des romans de Dickens. Oliver Twist a été traduit en 1841, David Copperfield en 1851, Nicholas Nickleby en 57, et Dickens a aussitôt traduit en français un immense succès auprès des adultes qui mesurent, n'est-ce pas, qu'existe en Angleterre un très grand romancier avec une forme unique de tendresse et d'humour tout à la fois, mais comme il y a beaucoup d'enfants dans les romans de Dickens et que beaucoup de ces enfants sont des enfants qui ont commencé leur vie de façon désolante, hein, des enfants malheureux, des enfants abandonnés, injustement punis, persécutés, etc., que tout ceci est très moral, puisque ces enfants gardent un bon fond et sortent de la misère et s'imposent aux adultes. Quelquefois se vengent. Ces romans ont très vite été mis entre les mains des petites, des versions abrégées et allégées, à l'usage de la jeunesse. Quand j'étais petit, on distribuait comme prix les romans adaptés de Dickens. Madame de Ségur aimait beaucoup Dickens. Je ne sais si vous vous souvenez, c'est dans Un bon petit diable. C'est un roman qui se passe en Angleterre. Elle avait mis les pieds en Angleterre, mais uniquement à Londres, où son gendre était secrétaire d'ambassade. Elle y allait pour aider sa fille Nathalie à mettre au monde un petit garçon après la naissance de Camille et de Madeleine. Le roman du bon petit diable se passe en Écosse. Je n'avais jamais mis les pieds en Écosse. Et Charles, le héros du bon petit diable, est interné dans un épouvantable collège où les enfants sont sous-alimentés, battus, martyrisés par des pions sadiques. Et Charles va organiser la résistance. Tout cela vient droit de Dickens. Pour le signaler, elle imaginait que la tutrice, la méchante tutrice avaricieuse de Charles, Madame MacNish, lisait un roman de Dickens, Nicholas Nickleby. Quand Charles est chez elle, il est obligé tous les soirs, n'est-ce pas, de lui faire la lecture. Et que lui lit-il? Nicholas Nickleby, de Dickens. Je me demande même si Alphonse Daudet n'avait pas lu. La chose est possible à quelques mois d'intervalle. Hein. Le bon petit diable de la comtesse de Ségur, à cause d'une péripétie. Alors, les collèges se ressemblent, hein, les enfants sont mal nourris, les professeurs sont des brutes, le collège ressemble à un pénitencier, la discipline est atroce. Bon, c'est un véritable bagne. Dans le bon petit diable, Charles organise la résistance contre les pions, contre les professeurs, et il y a, dans un endroit du collège, un hangar où se trouvent des tonneaux de vin et des tonneaux de bière, à l'usage exclusif du corps enseignant. Et Charles réussit à enfermer son lanterne, un surveillant de la maison, il ferme la porte à clé avec le malheureux qui hurle dans le noir, et jette la clé dans un puits. Dans le petit chose, le surveillant général manie sans arrêt un énorme trousseau de clés, ce qui me fait ressembler, n'est-ce pas, à un bâton, à un gardien de prison. Et pour se venger, le petit chose qui est chassé du collège réussit à subtiliser le trousseau de clés et le jette dans un puits. Je pourrais vous raconter quelques-unes des farces organisées par Charles aux dépens de ses maîtres. Et lisez Le bon petit diable, c'est un très, très bon roman. Intéressant, avec du suspense, de la psychologie et des endroits tout à fait savoureux, et une histoire d'amour intéressante, puisque Charles, le petit Charles, n'a comme protectrice qu'une cousine plus âgée que 8 ans, à peine la vue, une cousine aveugle. Et bien qu'il s'agisse d'une jeune fille plus âgée que lui, et bien qu'il s'agisse d'une aveugle, Charles, à la fin, va l'épouser. Ils seront heureux, auront des enfants qui ne seront pas des aveugles. Mais elle reste aveugle, comblée par la reconnaissance, l'affection et l'amour que lui voue son petit cousin qu'elle a protégé quand il était si malheureux chez sa tutrice, la terrible avare, Madame MacNish. Vous avez chez la comtesse de Ségur un autre roman un peu antérieur que Dickens, que Alphonse Daudet a peut-être lu, où vous avez un autre collège ressemblant à un bagne, c'est les Denigaud. Les Denigaud sont des petits bourgeois des environs de Redon, en Bretagne, qui tarabustent leurs parents et obtiennent gain de cause. Ils n'ont qu'une idée, c'est aller à Paris. Alors, innocent, le garçon est placé dans un collège, comme interne, un collège qui est situé près du jardin du Luxembourg. Collège catholique près du jardin du Luxembourg, je n'en vois qu'un, Stanislas, c'est trop loin, c'est le collège Bossuet. Ça doit être cela. Et Simplicie est placé chez une vieille tante et ces deux nigauds, car ce sont deux nigauds, subissent des convenus sur mes aventures, tous les malheurs leur fondent dessus. Et ça se termine assez mal pour eux, et échaudés, ils rentrent piteusement à la campagne, se terrent en Bretagne et vont épouser, elle, un obro breton, lui, une bretonne, et ne mettront plus jamais les pieds à Paris. Ils ont été bien chapitrés là-dessus. Mais la pension des jeunes savants, elle se nomme comme cela, chez la comtesse de Ségur, où Innocent est pensionnaire, est atroce, hein, avec on vend aux pensionnaires des friandises à des prix exorbitants et foilatés. Les élèves entre eux s'entretuent presque. Innocent est parfaitement ridicule, moyennant quoi, lorsqu'on les traîne à la piscine, tous les autres s'appliquent à le noyer. Bel et bien, il échappe de très près, n'est-ce pas, à une noyade. Donc des enfants dévoyés, des maîtres brutaux, l'indifférence des parents, un corps professoral exécrable. Tout cela, Madame de Ségur l'a écrit à partir de ses lectures de Dickens. Donc je me demande si Alphonse Daudet n'a pas combiné la comtesse de Ségur et Dickens. Comme le livre de Daudet présente toujours des échecs du malheureux petit Daniel Essett, c'est son nom, il y a un peu quelque chose d'une fable ou d'un conte. Rien de ce que l'on souhaite n'advient, c'est toujours le pire qui tombe sur vous. Quoi que l'on fasse, l'on rate, et cela revient, n'est-ce pas, de chapitre en chapitre. Donc c'est un peu une démonstration, vous voyez, taillée sur mesure, enfin c'est cousu de fil blanc, on n'y croit guère. Et d'un autre côté, vous avez quantité de détails réalistes qui font vrai. Par la suite, n'est-ce pas, Alphonse Daudet écrira des romans, c'est à peu près le contemporain de Zola. Il écrira des romans avec la même préoccupation que Zola et que Maupassant, c'est-à-dire une vraisemblance sociale, du vraisemblable psychologique. On est du côté, n'est-ce pas, d'une démarche pas naturaliste, hein. Daudet n'allait pas jusque-là, mais on est du côté d'une démarche romanesque réaliste. Donc il y a à la fois du réalisme et puis une espèce de fantaisie un peu absurde, à savoir faire tout le temps rater le personnage. Alors, j'en viens au thème de l'enfance, le thème de l'enfance malheureuse. Il y a une trouvaille d'Alphonse Daudet, une belle trouvaille, c'est le titre « Le petit chose ». Vous vous souvenez d'où cela vient? Il rejoint une classe, il est mal accueilli par le professeur à Lyon, puisqu'il n'est pas lyonnais, puisqu'il n'appartient pas à la bourgeoisie, il n'a pas un sou, et qu'il n'a même pas de quoi, n'est-ce pas, se vêtir comme ses petits camarades. Il a gardé la blouse paysanne qu'il avait à Nîmes, quand il jouait dans le jardin de la fabrique familiale. Donc il s'amusait à jouer à Robinson Crusoe. Alors, le professeur, tout de suite, n'est-ce pas, le prend en grippe et affecte de ne plus se souvenir de son nom. Et quand il l'interpelle, il lui dit « Et vous, le petit chose ?» Donc, dès le départ, le malheureux, n'est-ce pas, est comme dépossédé de son nom. Vous retrouvez la thématique que vous aurez dans « Sans famille » où le petit garçon n'a pas de nom puisqu'il ne sait pas ni qui est sa mère ni qui est son père. Ni même le lieu. Oui, il a été trouvé à Paris. Le père Barberin, le maçon Barberin, l'a trouvé enfant nouveau-né abandonné dans des langes presque somptueux, mais sans aucune marque distinctive. Il l'a retrouvé avec Breteuil à Paris. Donc, il a dû naître à Paris, mais il n'a pas de nom. Un enfant sans nom. Et en des temps plus récents, serait tombé entre les griffes de l'assistance publique. Donc le petit chose, n'est-ce pas, est dépouillé dès le départ de l'histoire de son nom. Il est encore très jeune. Je vous lis le passage. Ce qui me frappa d'abord à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. À Lyon, les fils des riches ne portent pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue, les gones, comme on dit. Moi, j'en avais une petite blouse. J'avais l'air d'un gosse. Quand j'entrais dans la classe, les élèves ricanèrent. On disait, tiens, il a une blouse. Le professeur fit la grimace et tout de suite me prit en aversion. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom. Il disait toujours, eh, vous là-bas, le petit chose. Je lui avais dit pourtant plus de 20 fois que je m'appelais Daniel Essette. À la fin, mes camarades me surnommèrent le petit chose et le surnom me resta. Donc, une sorte de dépossession. Alors, la famille ruinée, assez vite, irrémédiablement ruinée, une espèce de déchéance inéluctable. Le père ne peut plus payer le vêtement, la nourriture de ses deux fils, de Jacques et de Daniel, et en est réduit à se séparer de son épouse. L'épouse va survivre très mal chez un cousin en province, en Provence, en province et en Provence. Et le père exerce des professions peu lucratives, représentant vins, voyageurs de commerce, etc. Manifestement, ne gagne pas de quoi sauver la famille du désastre. Le frère Jacques est la bonté même, mais il est comme desservi par une passion étrange, la passion des larmes. Frère Jacques pleure tout le temps, pleure sans arrêt, comme une fontaine. Il pleure quand il fait le bien, il pleure quand il fait le mal. On lui parle, il pleure. Par la suite, ce personnage, l'enfant pleureur, va se révéler envers le petit Daniel d'une admirable générosité. Mais il a en commun, n'est-ce pas, avec lui, une même naïveté aussi. Simplement, ce frère qui pleure s'arrête de pleurer pour travailler et gagner un peu sa vie et envoyer un peu d'argent à la mère, qui est à charge de cousins peu aimables, perdus au fond de la Provence. Dès le départ, alors cela est fréquent dans les littératures autobiographiques, c'est un topos, l'enfant est arraché au décor de ses premières années, à savoir le jardin de la fabrique, où il jouait à Robinson Crusoé, avec un petit garçon qui était comme à son service. Le fils du concierge de la fabrique sert d'esclave à Robinson Crusoé. Clivages sociaux se reproduisent au sein des jeux des enfants. C'était un paradis, il y avait des fleurs, il y avait des platanes, il y avait de l'espace, il avait construit des cabanes, il y avait un bassin, etc. Dans cette usine qui a fait faillite, où les ouvriers ne viennent plus. Le décor n'est pas inintéressant, c'est même assez stimulant pour l'imagination que des enfants s'emparent du décor des adultes ont déserté et ont fait faillite, l'usine a fermé, il reste ces lieux un peu étranges sans doute, puisqu'il n'y a plus de présence humaine, et l'imaginaire des enfants s'en empare, transformer cela en une mer miraculeuse, ou bien une île, comme dans l'histoire de Robinson Crusoé. Les pages du début, en ce sens, font rêver. Alors évidemment, l'enfant est délogé de ce décor utopique qui est le décor du bonheur, le bonheur que peut donner la rêverie. Vous avez dans les Confessions de Jean-Jacques un épisode extraordinaire. Jean-Jacques, enfant, est allé jouer hors de Genève. Et il lui faut, en ce temps-là, n'est-ce pas, Genève était une ville fortifiée. C'était notre grand poète français, Agrippa d'Aubigné, qui avait érigé au début du XVIIe siècle les remparts de Genève. Et tous les soirs, Genève, ville militaire, on ferme les portes, on relève les ponts-levis, on ferme les portes. Et voilà que Jean-Jacques, qui s'était égayé dans la campagne, a manqué l'heure de la fermeture. Il se retrouve, n'est-ce pas, hors ville, loin de son père. Alors déjà, n'est-ce pas, il était loin de sa mère, puisqu'il ne l'a pas connue. Elle est morte quand il était très enfant. Ses rapports avec son père sont assez difficiles, puisque le père, il le donne à deviner dans les confessions. Le père était alcoolique, ce qui était très très gênant quand on est horloger. C'est la profession du père de Jean-Jacques Rousseau. Ses mains tremblaient. Évidemment, pour réparer des montres et des mécanismes subtils, ce n'est pas le mieux. Donc Jean-Jacques, déjà presque sans famille, se trouve soudainement, n'est-ce pas, aux portes de Genève. Et il présente cela comme la catastrophe qui sera celle de toute sa vie. Il sera constamment expulsé de la société des hommes, isolé, tenu à l'écart, etc. On est au début, n'est-ce pas, d'un des grands motifs de l'imagination de Rousseau. Ici, la sortie du paradis terrestre de l'enfance est, me semble-t-il, très bien dite. Et c'est pour cela qu'il peut dire, comme tant d'autres, les seules bonnes années de ma vie. Il y a une idéalisation de la petite enfance, des premières années de vie, où on est heureux, responsable, et dans un monde à mi-chemin du monde réel et du monde imaginaire. Sensible, sans doute, n'est-ce pas, affecté par la ruine de la famille et par la mort du frère aîné séminariste, un chapitre entier y est consacré, comme son frère Ernest Jacques, dans le roman, chez qui c'est une espèce de maladie, le petit Daniel passe son temps à pleurer. C'est une des singularités du petit chose. Le petit chose vous raconte, peut-être à ce titre, le roman serait-il, n'est-ce pas, un roman en présageant bien d'autres, qui seront écrits beaucoup plus tard. Ce livre narre la vie d'un raté. Je pense à ces romanciers qui ont choyé ces sortes, beaucoup plus modernes, qui ont choyé ces sortes de personnages. Le poète Jean de la Ville de Miremont, je vous en avais parlé, me semble-t-il, ces années passées, qui meurt pour la France en 1914. C'était un ami d'enfance de François Mauriac. Jean de la Ville de Miremont a écrit quelques poèmes admirables. Certains sont mis en musique, s'il vous plaît, par Gabriel Fauré. Mais il eut le temps, avant de mourir, très jeune, d'écrire un petit roman ou une grosse nouvelle dont l'héros s'appelle Jean Désert. Jean Désert est un garçon qui n'est pas antipathique, mais qui n'a pas de qualité, qui ne se pique d'en avoir aucune, qui n'a pas envie de faire carrière, ni même de tomber amoureux. Or, il rencontre une jeune femme qui ferait très bien l'affaire. Mais c'est une espèce d'abonné au ratage. Je pense à l'étranger, Albert Camus aussi. Meursault est singulièrement doué pour tous les échecs possibles. Dans le roman énorme de Robert Musil, L'homme sans qualité, vous trouvez des personnages de cette sorte. L'italien Moravia, Les indifférents de Moravia. Vous avez des personnages, ce sont des hommes, comme vous et moi, mais ils sont indifférents à tout. Ils ne se lient pas, ils ne se compromettent pas, ils ne s'engagent pas, ils ne s'intéressent pas. Les hommes désintéressés, en plus, n'est-ce pas, c'est en Italie, donc ils sont non seulement désintéressés de quoi que ce soit, mais ils sont disoccupati, c'est-à-dire chômeurs. Ils ne travaillent pas, mais Moravia est passé de mode, on ne le lit plus guère. Vous avez lu des romans de Moravia, Umberto Moravia? C'est d'un de ses romans qui était tiré le film célèbre, lui, de Jean-Luc Godard, Le Mépris, avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. C'est cela.
Il y a un film de cette année 2020 qui sort sur les indifférents.
Pardon ?
Il y a les indifférents. Un film sur les indifférents de Moravia qui est sorti en 2020.
Tout à fait. Les indifférents. C'est une des particularités de ces personnages. Alors, Moravia a dû mourir il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et évidemment, on l'a rapproché de l'existentialisme. Vous voyez que le personnage de Roquentin chez Sartre dans La Nausée n'a pas grande ambition, hein, sinon de traîner une existence sans motif, sans finalité, pas d'aventure. C'est des personnages dont l'expression familière de raté semble convenir assez. Alors c'est le cas, n'est-ce pas, de ce malheureux petit chose. Alors vous me direz, il eut une enfance malheureuse, sa vie familiale est troublée des confitures financières de son père, troublé par la mort de son frère aîné. C'est fâcheux d'avoir un frère qui tout le temps, n'est-ce pas, pleure, sanglote, coule comme une fontaine. Bon, très bien, mais c'est exactement la même chose dans la deuxième partie, qui n'est pas pour les enfants, qui n'a pas été confiée aux enfants. Lorsqu'il est à Paris, il subit des échecs. Que fait-il ? Il éprouve des remords, il éprouve des regrets, il se met à pleurer. Il retrouve son frère. Ensemble, il sanglote. Il a des amours lamentables. Il en a honte. Il pleure. Vous avez un personnage, n'est-ce pas, de masculin, forcément, mais qui pleure. Quand il est pion, dans la première partie, quand il est pion dans son collège à Sarlande, j'ai relevé une dizaine d'endroits où le soir, après avoir été chahuté dans son étude, il se retire dans sa chambre, se jette sur son grabat et sanglote et pleure. Bon, cela vous donne l'image d'un enfant qui fut naïf, trop rêveur, sans doute trop sentimental, trop affectueux, etc. Un enfant que rien ne pouvait aider à grandir et à acquérir quelque résistance, mais devenu un très jeune homme, le petit chose garde cette psychologie d'enfant. Donc ce serait le héros de roman éternellement immature, l'éternel enfant. Et pourtant, il ne s'adonne à aucun enfantillage. Mais il se reproche à lui-même, et les quelques amis et protecteurs, très peu, qu'il rencontre, lui reprochent, n'est-ce pas, ce trait. L'abbé Germain lui dit « Tu ne seras jamais qu'un enfant ». Et il se souvient, dans la deuxième partie, au terme de ses aventures parisiennes, il se souvient de ce mot de l'abbé Germain « Tu ne seras jamais qu'un enfant ». Donc c'est le personnage éternellement immature, incapable de vieillir, éternel enfant. Voyez comme dans les livres mettant en scène des enfants, surtout quand ils sont décrits à la première personne, celui qui écrit est évidemment un adulte, se souvient d'avoir été enfant et il est bien aise de garder à part lui-même un côté enfantin qui lui permet de sympathiser, malgré la distance des années, avec l'enfant qu'il fut jadis. Si je parle de mon enfance, c'est qu'elle continue de m'intéresser parce qu'à certains égards, je suis resté l'enfant que j'étais. Alors ceci est signe chez le narrateur d'une sorte de fraîcheur. Il est capable de, déjà, n'est-ce pas, il peut vaincre la distance du temps, ce qui est un exploit, redevenant sur un mode littéraire l'enfant qu'il avait été. Et surtout, s'il s'intéresse à l'enfance, vu le prestige extraordinaire de l'enfance dans notre culture, c'est pour le narrateur bon signe. Il est gardé, n'est-ce pas, quelque fraîcheur, quelque ingénuité. Il n'est pas pourri par les ans, pourri par son expérience, pourri par la civilisation dans laquelle il se trouve. Surtout quand il s'agit d'un intellectuel. Il a gardé, malgré toute la sécheresse des idées, il a gardé quelque fraîcheur du sentiment. À certains égards, il est encore un enfant. Et c'est tant mieux. Ici, c'est exactement le contraire. Ici, n'est-ce pas, le personnage, malheureusement pour lui, n'arrive pas à se débarrasser de sa fragilité, j'ai même envie de dire de sa niaiserie, de toutes ses faiblesses qui étaient siennes lorsqu'il était enfant. Dans le livre, vous avez d'autres figures d'enfants perdus, un peu comme les le petit chose. Alors vous avez le frère Jacques, qui va devenir le tuteur, le protecteur du petit chose, dans la deuxième partie. Jacques, lui aussi, n'est-ce pas, vit des échecs. Bon, il subit, comme Daniel, la déconfiture de la famille. Il les subit sur un mode particulier. Comme il pleure sans arrêt de manière chronique, lors de la déconfiture familiale, il pleure encore plus. Déjà. Mais ce petit enfant larmoyant, ce garçon larmoyant, cette fontaine, rêve de faire de la littérature et se voudrait poète. C'était à la mode. Et que fait-il? Il se confectionne un énorme livre et il voudrait écrire, parce qu'il est très pieux à Lyon, il est enfant de cœur. Il voudrait écrire un grand poème religieux comme en avait donné Lamartine. Bon, ou comme en prose, Chateaubriand avait écrit Le génie du christianisme. Et calligraphie, dans ce gros recueil où il a utilisé beaucoup de papier, beaucoup de colle, le recueil en peste la colle, il intitule son livre « Religion, religion ». Ce sera un chant épique en 24 chants, s'il vous plaît. Et le malheureux n'est capable d'en écrire que seulement 4 vers. Son imagination poétique est tarie au bout de 4 vers. Et les 4 vers sont exécrables. Avec des chevilles, il répète, n'est-ce pas, religion, religion. Pas 24 chants, 12 chants. Religion, religion, poème en 12 chants, par Hécette Jacques. Alors on s'extasie devant les 4 vers, mais il n'y en a que 4. Voilà, religion, religion, mot sublime mystère, voix touchante et solitaire, compassion, compassion. C'est tout ce qu'il a réussi, cet apprenti poète, à produire, avec du remplissage, hein, religion, religion, compassion, compassion. Ce n'est pas fameux. Donc ce malheureux Jacques, qui à Paris va gagner sa vie, mais qui va mourir de tuberculose, laissant son protégé, son petit frère Daniel, dans le plus grand embarras, lui aussi, n'est-ce pas, est une espèce de raté. Et vous avez un enfant également malheureux, c'est le fils du concierge de l'usine ruinée, qui joue le rôle de Vendredi, le sauvage, dans les jeux, dans les Robinsonades, que s'invente Daniel Hécette. Ce petit garçon est très malheureux, très triste. Lorsque la famille décampe, il perd son compagnon de jeu. Et comme il est fils d'un concierge, qu'advient-il? Je sais pas, il a 12-13 ans, on le met aussitôt au travail. Donc vous avez encore, n'est-ce pas, à la façon de ce que l'on trouve chez Dickens, encore quelque chose sur les malheurs des enfants mis trop tôt au travail. Dans le collège, vous avez une espèce d'avorton. Alors, le chapitre est connu parce que l'on en a tiré beaucoup de dictées pour l'enseignement primaire. Je crois me souvenir que j'ai eu un passage de ce chapitre. Alors c'est un personnage surnommé Bonbon. Parmi ces diablotins, il y avait un demi-pensionnaire qui me désespérait par sa laideur et sa mauvaise tenue. Imaginez un horrible petit avorton, si petit que c'en était ridicule. Donc cet enfant est un nain. Avec cela disgracieux, sale, mal peigné, mal vêtu, sentant le ruisseau, et que pour rien ne lui manqua, affreusement bancal, autrement dit boiteux. Jamais pareil élève, s'il est permis toutefois de donner à ça le nom d'élève, ne figura sur les feuilles d'inscription de l'université. Il était à déshonorer le collège. Bonbon. Nous l'avions surnommé Bonbon à cause de sa démarche plus qu'irrégulière. Bonbon était loin d'appartenir à une famille aristocratique. Cela se voyait sans peine à ses manières, à ses façons de dire, et surtout aux belles relations qu'il avait dans le pays. Tous les gamins de Sarlande étaient de ses amis. Donc chaque fois que la division est en promenade, dans la ville de Sarlande, Bonbon retrouve des petits voyous avec lesquels sur les trottoirs il a l'habitude de jouer. Et le malheureux Bonbon est martyrisé par les autres enfants du collège, méprisé par les professeurs, méprisé même par le pion. Bonbon n'est bon à rien, il ne sait ni lire ni écrire, on ne sait pas dans quelle classe le mettre. C'est le fils d'un maréchal ferrant qui se saignait les quatre veines pour envoyer son fils demi-pensionnaire au collège, mais hélas, Bonbon n'était pas fait pour le collège, il profitait guère. Le jour de son arrivée, on lui avait donné un modèle de bâton, lui disant « fais des bâtons ». Et depuis un an, Bonbon faisait des bâtons. Et quel bâton, grand Dieu, tordu, sale, boiteux, clopinant, des bâtons de Bonbon. Et au moment où Daniel Hécette quitte le collège, Bonbon, qui s'est pris d'affection pour lui, fait l'effort de lui remplir une page entière de beaux bâtons. C'est la première fois qu'il fait des bâtons droits. Durant toute l'année, n'est-ce pas, Bonbon a fait des bâtons. Donc cet enfant est passablement demeuré, très maltraité. C'est un martyr de l'institution scolaire. Évidemment, le collège ne lui sert absolument de rien. Vous avez un autre personnage du collège qui est une orpheline, que l'intendante du collège, en la payant très mal, en la faisant travailler beaucoup, en la nourrissant très peu, fait sortir de l'orphelinat pour l'aider pour des travaux de couture. Et c'est le personnage que Daniel Essette a croisé un soir dans un couloir, qu'il appelle les yeux noirs. Elle a de très beaux yeux noirs, mais ils ne peuvent évidemment pas communiquer, ils ne peuvent jamais lui parler. Et il l'entrevoit quand il est à l'infirmerie et qu'il est malade. Il rêve, n'est-ce pas, d'une idylle entre lui et elle. Mais elle a commis le forfait abominable de voler un morceau de sucre, car elle aime le sucre. Elle est aussitôt renvoyée à l'orphelinat. Et l'orphelinat, on la fera travailler sans la payer plus durement encore. Si vous voulez vous faire une idée de ce qu'étaient les orphelinats de la fin du XIXe siècle, vous pouvez lire de Marie-Claire Oudou, Marie-Claire, le roman qu'elle a ainsi intitulé, roman très cher à Philippe Nemo. Je me flatte que c'est moi qui le lui ai fait connaître, qui vous décrit l'orphelinat de Bourges. Marguerite Oudou eut le prix Fémina en 1911 ou 1913, et c'était une amie d'Alain Fournier, une orpheline qui fut bergère, gardienne de moutons, en Berry, et qui vint à Paris comme couturière, qui eut une vie très dure et qui écrivit un chef-d'œuvre, son roman très autobiographique, Marie-Claire. Donc vous avez des personnages, vous voyez, d'enfants ou de jeunes gens, enfants normaux, enfants presque anormaux comme roman, martyrisés. Le plus intéressant de tous, c'est évidemment Daniel, le protagoniste du livre. Alors, je vous parlais de son éternelle immaturité, qui fait de lui, n'est-ce pas, un type psychologique intéressant. Daudet a ajouté qu'il a une silhouette extraordinairement frêle, qu'il ne fait pas son âge, qu'il ne lui donne pas son âge, il paraît toujours plus jeune, et de surcroît, il est de très petite taille. Donc, cela ajoute, si vous voulez, du pathétique à son immaturité. Et de surcroît, il est pauvre, très pauvre. Lorsqu'il a quelque argent à Paris, il le dépense stupidement à faire imprimer un recueil de vers à ses frais. Dans la deuxième partie, nous avons lecture. Quelques-uns des vers qu'il a rédigés, ce sont de très mauvais vers. Son poème n'a absolument aucun intérêt. Et on conçoit, n'est-ce pas, qu'il n'en ait vendu qu'un seul exemplaire. Les échecs de Daniel, dès le départ, le personnage est comme abonné à l'échec. Le fils du concierge, de la fabrique, de l'usine désaffectée, le fils du concierge, c'est évidemment dire des gros mots des enfants de la rue. Tout en jouant, j'ai appris à faire comme lui. Et un jour, en pleine table, un formidable juron m'échappa, je ne sais comment. Consternation générale, qui t'a appris cela, où l'as-tu entendu? Ce fut un événement. Le père parle tout de suite de le mettre dans une maison de correction. Le grand frère l'abbé l'expédie tout de suite à Confesse. Donc vous avez pour un mot qu'il a entendu, dont il ne sait probablement pas le sens, une obscénité quelconque, le voilà qui provoque une catastrophe. Le frère aîné, l'abbé, meurt. La chose nous est longuement dite, et c'est lui, Daniel, qui, le père, attendant la nouvelle et accablé, ne répondant pas au coup de sonnette, c'est lui qui reçoit le télégramme, la dépêche, annonçant la mort de l'abbé. Et accablé de voir se confirmer ce qu'il appréhendait, que son grand frère est bel et bien mort, il n'ose donner lecture de la dépêche à son père. Donc il s'inflige le poids de ce secret indicible, père, papa, ton fils est mort. Donc cela aggrave. Quand on déménage, que l'on quitte Nîmes pour aller à Lyon, il est embarrassé, c'est un des accessoires qu'il avait quand il jouait à Robinson Crusoe, il est embarrassé d'une cage dans laquelle il y a un perroquet. Et qu'advient-il lorsque l'on débarque à Lyon, dans le tohu-bohu, il perd la cage et le perroquet. Donc le voilà dépossédé. À Lyon, avec son frère, ils servent à la messe. Et qu'advient-il? En plus, un jour où il y avait beaucoup de monde, le jour d'une fête de première classe, peut-être le 15 août, que sais-je, déplaçant le missel du côté droit au côté gauche de l'autel, il s'embarrasse dans la soutanelle des enfants de cœur, il tombe de tout son long et laisse tomber le missel. Fracas, scandale devant tout le monde. Alors, évidemment, il est tout petit, il est chétif, Daniel, les grands missels que l'on utilise, les prêtres utilisent pour célébrer la messe, avec en plus le lutrin qui les porte, c'est une charge lourde pour un enfant. Il commet cette maladresse. Au collège, il multiplie les impairs. Il ne sait pas dire ce qu'il faut au professeur, dire ce qu'il faut au principal, dire ce qu'il faut au concierge. Il se lie, hélas pour lui, malencontreusement avec le professeur de gymnastique, et bien sûr le surveillant général, avec son énorme trousseau de clés, devient instantanément un ennemi, un implacable ennemi, puisque lors d'un concours de vers, Daniel Essett a lu un poème dont il est l'auteur, après le surveillant général lit son poème à lui, et le public trouve que le poème de Daniel est meilleur que celui du surveillant général. Quand vous risquez un concours poétique, vous n'avez pas intérêt à être premier classé devant quelqu'un qui peut être un redoutable ennemi. C'est ce qui lui arrive. Il tombe malade dans le collège, il sera malade aussi à Paris, il sur le point de mourir. Ses amours esquissées avec la jolie orpheline aux yeux noirs dans le collège n'aboutissent pas. Il se lie avec un maître d'armes qui est Roger pour sa gymnastique, qui abuse de sa crédulité, et même, n'est-ce pas, il entreprend de se suicider, et il rate son suicide, puisque la poigne énergique d'un aumônier, d'un prêtre au sort de philosophie, le retient au dernier moment. Pour s'en sortir, il ne peut compter que sur des rares personnages de sauveurs, alors son frère Jacques, son père, l'abbé German, ces personnages sont rares, et sans eux, n'est-ce pas, Daniel disparaîtrait. Donc vous avez un personnage irritant, parce que c'est toujours le même, il rate tout, prend des décisions qu'il ne tient pas, le peu d'argent qu'il réussit à gagner ou qu'on lui donne, il le dilapide, ses ambitions littéraires ne donnent naissance qu'à de médiocres vers, et médiocres pour ne pas dire pis que cela. Donc vous avez un personnage presque statique, et restant intéressant dans la mesure où, immanquablement, il demeure sur le seuil de l'âge adulte. Une espèce d'enfant obstiné. Ce n'est pas un vieil enfant. Il n'est pas capable d'enfantillage. Il ne joue pas à l'enfant. Il reste éternellement immature. Je ne sais pas si cette psychologie existe, probablement. Vous avez dans ce roman aussi une dénonciation radicale, comme chez Dickens, de ce bagne que sont les collèges. Hein. Les maîtres sont vulgaires, sont jaloux les uns des autres, méprisent les enfants, bien sûr. La direction est parfaitement pusillanime. Un élève se comporte comme un voyou, mais c'est le fils d'un marquis. Aussitôt, n'est-ce pas, monsieur le principal, donne tort au pion, raison au père du voyou, raison au voyou. Les lieux sont lugubres. L'arrivée de Daniel dans ce collège le soir ressemble beaucoup à l'arrivée de Dante, accompagné de Virgile, aux portes de l'enfer, avec écrit, vous savez, « Laissez ici toute espérance ». On est au bout du monde, les corridors noirs, l'horloge qui marque, aussi horrible que l'horloge baudelairienne, qui marque les heures du collège. Les pompes académiques, les pompes scolaires sont ridicules. Au collège, c'est toujours la même chose. Et le départ ressemble, n'est-ce pas, à la fuite. C'est une fuite éperdue. D'Odé devait garder de mauvais souvenirs de ses années scolaires. Moi, j'ai souvenir d'avoir quitté avec une joie extraordinaire le lycée vers le 15 juin, quand les cours s'arrêtaient. Quelle joie de décamper. Et malheureusement, il fallait rentrer au mois d'octobre. Vous, au mois de septembre, même au mois d'août. Le livre tel quel est encore susceptible d'intéresser, d'être relu, même si les temps ont changé. Il y a des singularités dans le caractère de ce Daniel. Il ne peut pas s'empêcher. Alors vous me direz, c'est un méridional, les méridionaux, dit-on, sont vantards, vaniteux et vantards. Plus tard, n'est-ce pas, Daudet écrira Tartarin de Tarascon. Daniel ne peut pas s'empêcher de mentir. Et le plus souvent, n'est-ce pas, il est victime de ses mensonges. Il reçoit une dépêche annonçant la mort de son frère. Son père lui dit « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce une dépêche ?» Il répond « Non, c'est un voisin qui a fait erreur. » Le mensonge ne sert de rien. Il va retarder le moment où il va être obligé de dire à son père qu'on vient d'apprendre une bien triste nouvelle. Il a des rêves, Daniel. Tout le premier, il mesure, n'est-ce pas, qu'il est en train de fabuler, comme on dit maintenant, de fantasmer. Il le sait, mais néanmoins, n'est-ce pas, il fait comme si cette fabulation, il fallait la conserver. Donc il y a là un caractère, vous voyez, de personnage faible, incapable de prendre de l'âge, irresponsable. Pour autant, il n'est pas antipathique. Quelquefois, il amuse. Alors, au plan littéraire, le livre est attachant. En principe, c'est écrit à la première personne, je. Mais le narrateur, d'abord, comme beaucoup de narrateurs, aime à dialoguer avec son lecteur, qui a besoin sur un mode un peu oral. Et le narrateur aime à désigner le Daniel qu'il fut, puisqu'en principe, c'est écrit, n'est-ce pas, avec recul. Il désigne le personnage qu'il fut, non plus par « je », mais par « Daniel et Seth ». Donc, il parle de lui, tantôt à la première personne, tantôt à la troisième personne. Et il parle de lui à la troisième personne, le plus souvent dans les endroits où son Daniel et Seth est coupable au ridicule. Ce qui est un petit peu troublant. Par ailleurs, il aime beaucoup faire parler à la première personne son frère Jacques, sa mère quelquefois, son père. Et il aime beaucoup personnifier des choses. Donc vous avez, plus tard on retrouvera cela avec Delis dans les lettres de Montmoulin, dans les contes du lundi. Donc les choses prennent la parole et vous disent comment elles voient Daniel et Seth. Donc vous avez, bien qu'officiellement il s'agisse d'une rétrospection, des souvenirs d'un adulte sur la jeunesse qui fut sienne, vous avez un va-et-vient des diverses voix, c'est assez désordonné, d'où encore une espèce d'allure presque enfantine. On a le sentiment que l'auteur ne se maîtrise pas assez pour relater clairement et distinctement son passé. Alors le livre, à ce titre, est vivant, mais cette vie est une vie un peu inquiétante, parce qu'on se demande si ce n'est pas la sorte de vie qui est celle de la conscience de cet adulte, une vie très peu organisée, très peu maîtrisée, spontanée. Cet adulte, si je puis dire, est comme demeuré en enfance, puisque c'est un éternel enfant. Alors ce qui est gênant, c'est que l'adulte qui raconte l'histoire passe son temps à s'attendrir sur les échecs qui furent les siens dans le passé, sur les petits-enfants victimes de l'institution scolaire, etc. Vous avez du pathétique tout le temps et un peu trop. Alors, ce serait une réussite si le pathétique équilibrait l'humour et la drôlerie, parce qu'il y a des péripéties assez cocasses quand même, qui font sourire. Le dosage humour-pathétique est admirablement ménagé chez Dickens. Chez Alphonse Daudet, je trouve, n'est-ce pas, qu'il y a trop de larmes, trop de pathos. Ce sera l'un de ses défauts de romancier pour grande personne dans tous les romans qu'il donnera par la suite. Donc, on peut comprendre que le livre en son temps n'ait pas eu grand succès. Le public a dû penser que, sous les apparences d'un roman un peu réaliste, hein, disant la triste vie d'un malheureux jeune homme martyrisé par la destinée, l'institution scolaire, la débauche parisienne, etc. Bon, on est dans la tradition de Zola et d'un certain réalisme social et psychologique tout à la fois. Mais là-dessus, Alphonse Daudet fait couler des flots de bons sentiments et de larmes. Ce que ne fait pas Zola. Victor Hugo, dans Les Misérables, Zola, dans ses romans, vous disent voilà ce que sont les choses, elles sont révoltantes, elles sont inadmissibles, elles sont scandaleuses, point. Chez Victor Hugo, vous avez besoin, n'est-ce pas, un discours à teneur politique pour supplier le lecteur de contribuer à une réforme de la société. Chez Zola, les choses sont dites dans leur ignominie telles quelles. Elles sont révoltantes, c'est ainsi. Le lecteur a un haut le cœur. Chez Alphonse Daudet, il y a cette démarche, mais comme surajoutée des bons sentiments. Vous me direz, la chose est racontée par Daniel Essette, qui est un éternel enfant, qui ne sait pas vieillir. Donc il a gardé, vous voyez, ce côté larmoyant, bon cœur, trop bon cœur, du tout petit garçon, du petit garçon qu'il était. Adulte, ne sait pas prendre son parti des choses. L'ennui, c'est que dans ses autres romans, Daudet sera coupable d'une telle sentimentalité. Alors j'ai là, je vais terminer par là, l'admirable livre dans la collection U de Michel Raymond, le roman pensé depuis la Révolution. Le chapitre sur Alphonse Daudet est sévère et se termine, Daudet romancier, se termine par ces mots. Le succès de Daudet s'explique par les facilités auxquelles il sacrifiait. Il mettait en œuvre de bons sentiments. Il faisait appel à la pitié du lecteur. Sa verve donnait lieu à de fréquentes interventions d'auteurs qui, par leur vivacité, n'étaient pas dépourvus de charme. Il reste que les romans de Daudet sont sans subtilité et sans grandeur. Sévère. Alors, sans subtilité, Daniel est un enfant, il est tout simple. Il reste simple, presque simplé. Et sans grandeur, si subissant des déconvenus, ou bien si, vous souvenant des déconvenus qui furent vôtres, vous passez votre temps à sangloter, c'est évidemment sans grandeur. Donc le livre est, me semble-t-il, quelque peu décevant, malgré l'intérêt de la psychologie de Daniel et la précision de cet itinéraire allant de la petite enfance jusqu'à la jeunesse, tout est épouvantable, on ne va pas de mal en pis, c'est toujours décevant, une vie de raté. Ce ne sera pas le cas, Dieu merci, n'est-ce pas, du petit Rémi dans Sans Famille la fois prochaine.